Voici une traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6608C18SHSBC76 intitulée « L'étude et l'intention ». Il s'agit d'une conférence donnée par Elor Nubar le 18 août 1966 aux étudiants du Saint Hill Special Briefing Course. Copyright 1966-1982, Elor Nubar, tout droit mondiaux de reproduction réservé. Eh bien, j'ai peut-être l'air un peu démantibulé, un peu décrépit aujourd'hui, mais ceux qui croyaient que les recherches sur l'état de Claire m'avaient fait passer un sale quart d'heure n'ont aucune idée de ce qui peut m'arriver pendant mes recherches sur les niveaux dotés. Vous croyez que ça y est, tout est résolu. Comment avez-vous fait pour vous fourrer dans un tel pétrin? Comment ai-je fait pour me fourrer dans un tel pétrin? Quand vous essayez de prendre le postulat d'un être qui fait 300 km de hauteur, alors que vous ne mesurez qu'1m80, et que vous cherchez à mettre ce postulat en pièces, vous vous demandez où est passée ma tête, vous savez. C'est très intéressant. Et j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous serez clair, inscrivez-vous au cours d'OT et faites-le étape par étape, gentiment et tranquillement. Ne vous laissez pas emporter par vos ambitions. Je suis le seul à être sacrifiable ici. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, ils disent « c'est bien fait pour lui ». Et chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, c'est ma faute. Si, si. Bon. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août, AD16, planète Terre. Très bien. Je me demande bien ce que nous fabriquons ici. J'ai absolument rien à vous raconter aujourd'hui. J'aimerais apporter une petite rectification. Si après la dernière conférence, vous avez, comme je l'ai fait, cherché la définition de Dharma, D-H-A-R-M-A, pour savoir ce qu'il en subsistait de nos jours, eh bien épargnez-vous cette peine. Le Dharma a 50 000 définitions. Loi suprême, le système des castes de l'Inde, le destin, l'amour, et j'en passe. Et dans aucun des livres, écrits par des autorités en la matière, je n'ai trouvé la définition correcte de dharma. Merveilleux, non? Dans le bouddhisme, dharma signifie le chemin. Vous voyez? Vous avez tel nom pour telle chose, et ce nom devient synonyme de la chose, puis finit par devenir la chose elle-même. Par exemple, tous les réfrigérateurs sont devenus des frigidaires. Mais il y a encore pire. Le nom est identifié au produit, et non à la source du produit. Ce qui, à mon avis, est assez fascinant. J'ai cru bon de vous faire cette petite remarque en passant concernant la dernière conférence, parce que je me demandais comment on définissait le dharma de nos jours. Vous savez, je me demandais si on pouvait trouver le dharma quelque part. Eh bien non. J'ai constaté cependant qu'on en parle énormément dans les livres de théosophie, mais on n'en donne pas vraiment l'explication. Se dit en passant, l'âge dans lequel nous vivons a déjà été nommé. Cela vous intéressera peut-être de savoir que notre âge, c'est l'âge de l'amour. Il y a eu l'âge de la raison et l'âge de la science et beaucoup d'autres âges, mais il y a 2500 ans, Gautama Siddhartha a dit, dans 2500 ans, commencera l'âge de l'amour en Occident. C'est une prédiction intéressante parce que la première chose dont les clercs se mettent à parler, c'est de l'amour. Vous savez? Bien sûr, personne n'a jamais encore fait de clerc, alors comment pouvait-on savoir? Toujours est-il que nous sommes censés être dans l'âge de l'amour, nous ne sommes plus dans l'âge de la raison, Dieu soit loué. Bon, je pourrais probablement vous parler d'un tas de choses, mais je ne vois pas lesquelles vous seraient les plus utiles en ce moment. Le nombre de cours terminés est en hausse, donc pas la peine de me faire de soucis à ce propos. Et vous avez l'air de bien avancer dans votre cours, donc là non plus, pas la peine de me faire de soucis. Je pense que je pourrais vous donner une conférence qui pourrait vous être utile d'une façon générale. Je vais vous donner un résumé des données concernant l'étude. Je ne vous ai jamais vraiment donné de conférence sur l'étude qui englobe tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Et au cours de cette conférence, je ne m'aventurerai certainement pas à vous fournir un sommaire de tous les points prédominants du sujet de l'étude. Il y en a pas mal. Mais voici quelques informations supplémentaires concernant l'étude en général, qui, à mon avis, vous intéresseront beaucoup. Et je vais vous parler de l'intention. De l'intention durant l'étude. C'est un sujet très très important. Quand vous étudiez, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire des informations? Voilà un point très important. Il y a aussi le fait que ce que vous étudiez peut être incorrect parce que la source, l'auteur, s'est trompé. Voilà quelque chose que nous n'avons jamais regardé de près. Nous sommes partis du principe que toutes les sources que nous étudions sont parfaites. Que premièrement, elles ont des informations à transmettre, et que deuxièmement, elles les transmettent sous une forme assimilable. Nous sommes plus ou moins partis de ce principe, et l'on demande tout le temps à l'étudiant de se mettre au point effet et de partir du principe que ce qu'il étudie est compréhensible et vaut la peine d'être étudié. Ce fait, à lui tout seul, tend à faire du sujet de l'étude quelque chose qui est tout juste bon à jeter à la poubelle. Parce que parmi les matériaux qu'on vous demande d'étudier dans le monde WOG, il y en a très peu qui soient compréhensibles ou qui aient une quelconque valeur. Et il est rare de trouver un manuel qui vous transmette vraiment les informations et la matière que vous êtes censé assimiler. C'est très rare. Eh bien, lorsque le sujet de l'étude est en plein délire, c'est la catastrophe. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de suicides dans les universités, et il y a beaucoup de suicides dans les universités. Il y a une proportion extraordinaire de suicides. Il n'y en a pas autant qu'en psychanalyse. Une personne sur trois se suicide durant ses 3 premiers mois de psychanalyse. Vous saviez ça? Bien, c'est bizarre, mais ce fait n'a jamais été publié. Je tiens cette information du bureau de psychanalyse de New York, ou quelque chose comme ça. Nous avons plus ou moins enterré ce sujet, soit dit en passant. Il n'en reste pas grand-chose. Mais le nombre de suicides dans les universités françaises est probablement le plus élevé du monde. Et durant les périodes d'examen, vous avez des tas d'étudiants français qui se font sauter la cervelle ou qui se jettent par la fenêtre. Le nombre d'échecs dans une université ne veut pas forcément dire que cette université produit de bons étudiants. Ces deux choses n'ont aucun rapport. Ce n'est pas parce que les examens d'une université sont durs que c'est une bonne université. Vous voyez ? Les universités qui ont les examens les plus durs ne sont pas forcément celles qui produisent les étudiants les plus brillants. Ces deux faits n'ont rien à voir. Et il y a beaucoup d'autres faits, à cet égard, qui n'ont aucun rapport. Et c'est parce que l'étude est un terrain très fertile pour un suppressif. L'étude, comme les gouvernements, attire les suppressifs comme le miel attire les mouches. Et vous pouvez trouver toutes sortes de réactions suppressives dans les manuels scolaires et dans les chaires. Donc, quand nous parlons de l'étude, nous devons chercher à savoir si oui ou non le sujet est sain. Ce sujet, ou l'enseignement de ce sujet, est-il éthique? Eh bien, je vais vous parler d'un sujet qui, à coup sûr, donnerait du pain sur la planche à 1000 responsables de l'éthique pendant 1 millier d'années. Ce sujet, c'est la navigation. Il se trouve que je suis un expert dans ce domaine particulier, mais je doute fort que le bureau du commerce ou le bureau de navigation me donne mon diplôme de capitaine aujourd'hui. J'en doute fort parce que l'examen n'a pas grand-chose à voir avec la navigation. J'ai plusieurs fois fait l'expérience malheureuse de naviguer sur de nombreux océans, tout seul, avec les moyens du bord, matériel insuffisant, chronomètre arrêté, pas de table des marées, etc. Et bien sûr, vous devez surmonter ce genre d'obstacles d'une façon ou d'une autre, pour ne pas perdre le bateau. Donc, vous naviguez. Et la méthode que vous employez pour naviguer est la seule chose qui importe lorsque vous passez un examen de navigation. Et le fait que vous naviguiez est la seule chose que cette vieille garce appelée la mer exige de vous. Et d'habitude, quand un bonhomme qui vient de réussir son examen avec 18 ou 19 sur 20, avec 18 ou 19 sur 20, arrive sur un bateau qui est sous ma responsabilité, je fais très attention. Parce que ça ne veut pas du tout dire qu'il sait naviguer. Un examen réussi n'a rien à voir avec la navigation. Un jour, je me suis retrouvé avec l'un de ces zigs sur les bras, il est monté à bord, il a regardé la barre, il a dit « C'est donc ça, une roue de gouvernail ?» Je m'étais souvent demandé « Oh, et voici un habitacle, et une boussole, mon Dieu, et voici un télégraphe. Comme c'est intéressant !» Et je me suis dit « Intéressant, ça. » Le gars avait son brevet. Il avait dû réussir l'examen, mais il n'était même pas fichu de savoir dans quel environnement il était censé naviguer. Si vous ramenez la navigation à ses principes de base, il vous reste quelques principes élémentaires très très évidents, très applicables. Par exemple, tout le sujet de la navigation est consacré à l'endroit où vous vous trouvez sur une sphère. Et vu que cette sphère se compose aussi de rochers, de bancs de sable et de terre, et qu'elle a aussi des régions de tempête qui sont plus dangereuses que d'autres, ainsi que des régions calmes que vous avez intérêt à éviter, il est donc important que vous sachiez où vous vous trouvez. Et vu que la mer est une surface d'eau au travers de laquelle on ne peut rien voir, même à quelques centimètres de profondeur, je me rappelle une fois où je voguais sur une mer parfaitement calme et plate, tout allait bien. Et puis je regarde à bâbord, et qu'est-ce que je vois ? Une mouette en train de marcher sur l'eau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pâli. À cause de la marée descendante ou quelque chose comme ça, ou la marée causée par une tempête, juste à côté de moi, il y avait un banc de sable. Et la profondeur de l'eau à cet endroit n'était pas de 20 mètres, mais de 2 centimètres. Alors que c'était censé être marée haute, voyez ? Donc, toute navigation effectuée uniquement avec des mathématiques vous fera atterrir sur des récifs. Ça, vous pouvez en être à peu près sûr. Parce que tout le sujet de la navigation consiste à savoir où vous vous trouvez, et ensuite il consiste à ne pas entrer en collision avec des objets dont vous n'êtes pas censé faire la connaissance. C'est facile. Il y a d'autres choses à savoir, que les étoiles ne se déplacent pas beaucoup, que les falaises et les promontoires ne bougent pas beaucoup, que le soleil se déplace avec une grande régularité et que la lune se déplace avec une irrégularité très régulière. Je veux dire, vous pouvez prédire son irrégularité. Et voilà donc des choses que vous pouvez observer. Et si vous avez un chronomètre qui a été remonté, ou que vous parvenez à recevoir un signal temporel d'un endroit quelconque, eh bien, vous pourrez localiser votre position sur la sphère en voyant où il est situé par rapport aux corps astraux, ou bien si vous êtes pilote, en reconnaissant les masses de terre ferme. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Bien. Vous comprenez un peu le sujet maintenant. Parfait. Et je peux vous assurer que vous comprenez beaucoup plus de choses qu'un aspirant de marine au cours de sa première année à l'Académie navale. Parce qu'on lui donne un livre appelé Dutton. Dutton, c'est la Bible. Maintenant, peut-être que Dutton était un bon livre au départ, mais il est tombé entre les mains des amiraux, et il a été sans cesse réécrit. Cette introduction à la navigation, de Mixter, le livre élémentaire qui a empêché les officiers qui ne sont pas allés s'écraser contre des récifs, de s'écraser contre des récifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mixter l'a publié en 1940. C'est devenu la Bible du jeune officier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mixter est mort, et les amiraux ont réécrit le livre. Et l'autre jour, j'ai pris le livre et je l'ai lu, et je me suis dit, ce n'est pas du Mixter. Donc hier soir, j'ai pris mon vieil exemplaire de ce livre, qui date de la Deuxième Guerre mondiale, Et puis j'ai pris l'édition qui vient d'être publiée, et je les ai comparées page par page. La différence est considérable. Les mots sont devenus plus longs. La même chose s'est produite avec Bowditch. On n'a pas arrêté de le réécrire. Au départ, c'était un tout petit livre, publié à la fin du XVIIIe siècle, dans une langue simple, si simple que même le cuisinier de Bowditch aurait pu s'en servir pour naviguer jusqu'en Chine. C'est devenu maintenant un livre de 9 ou 10 centimètres d'épaisseur, qui est bourré de sinus, de cosinus, de demi-sinus verses, de tables de points, d'équations, et de toutes sortes de choses démentielles. C'est devenu un livre de table énorme. Quand on ne sait pas quoi faire avec une table de navigation, on la fourre dans le Bowditch. C'est maintenant l'un des manuels officiels de la marine des États-Unis. Et j'imagine qu'il y a des manuels dans la marine royale anglaise qui ont subi le même sort. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la première chose qui vous viendrait à l'esprit, c'est que les gens qui enseignent ce sujet tiennent compte du fait que l'ignorance du sujet peut tuer des hommes. Je veux dire, si vous ne savez pas naviguer, vous pouvez mourir très très vite. Et parfois, vous ne mourrez pas si vite que ça, et d'une façon pas très propre. Vous seriez attendu à ce qu'ils fassent, tout leur possible pour rendre le sujet plus simple. Bon, il est vrai qu'ils ont développé des méthodes plus simples pour observer les étoiles, mais leurs manuels sont si compliqués que la première fois que j'ai pris le 2 tonnes, le manuel de navigation de l'Académie navale, j'ai lu les 4 premières phrases, et il m'a fallu les relire plusieurs fois, vu que je n'y comprenais rien. Et puis j'ai finalement posé le livre. J'ai jamais été plus loin. Bien des années plus tard, j'ai relu les 4 premières phrases, et j'ai découvert que si vous étiez un expert en navigation, et que vous n'aviez plus rien à apprendre sur le sujet, eh bien les 4 premières phrases du 2 tonnes devenaient compréhensibles. Intéressant, non ? L'Encyclopédie Britannica. Les premières éditions de l'Encyclopédie Britannica étaient très simples et très intéressantes. Je n'aime pas les éditions qui sont sorties après la 11e, parce que vous trouvez toutes sortes de choses rédigées dans un style assez simple dans les 11 premières éditions. Dans les 11 premières éditions, on est parti du principe qu'une personne se procurait une encyclopédie parce qu'elle ne savait pas certaines choses et qu'elle désirait y trouver une brève explication de ces choses. Mais dans les éditions plus récentes, eh bien je suis désolé de vous dire qu'il y a des articles sur des jardins paysagers que seuls les jardiniers paysagistes peuvent comprendre ou apprécier. Nous sommes dans un monde d'experts maintenant. Et l'expert, quand il écrit un livre, perd très souvent la boule. Hier soir, j'ai pris un livre qui parlait de l'équipement d'un yacht. Le sujet parallèle dont je vous parle maintenant est la navigation, et non la photographie, comme j'en avais l'habitude. Il s'agissait d'un texte d'une autorité en la matière, très moderne, et il y avait un chapitre consacré aux jumelles. J'ai donc regardé ce chapitre sur les jumelles, très intéressant. Il commence à l'époque de Galilée. Il vous dit comment construire un télescope galiléen. Et ce, d'une façon très compliquée et très vague. Très utile. Je me vois bien sur un yacht en plein milieu du Pacifique en train de construire un télescope galiléen. Quoi qu'il en soit, l'auteur part donc de là, ce qui est compréhensible, et vous dites, eh bien n'importe qui en parlerait, dans le premier paragraphe. Non, il en parle durant les 2 ou 3 premières pages, et puis il continue avec l'assimilation de la lumière par le verre. Il parle des divers types de verres, comment on fabrique le verre, les formules qu'on emploie pour piler le verre, pendant des pages et des pages. Je me vois bien au large de la côte hawaïenne en train de me demander quelle paire de jumelles prendre, voyons voir. Quelle formule a-t-on employée pour piler le verre de ces jumelles ? Vous voyez l'idiotie. Toujours est-il que ça continue comme ça pendant des pages et des pages, et le gars conclut soudain, sans aucune transition, qu'un yachtman a besoin de jumelles 7 x 50. Une conclusion dogmatique basée sur toutes les formules optiques. Un yachtman n'est pas un opticien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse de ces formules ? C'est complètement crétin. Par contre, ce chapitre ne contient pas les choses suivantes. Comment fait-on pour protéger des jumelles quand on est en mer? Comment empêcher l'eau d'y pénétrer? Comment nettoyer des jumelles? Vous pouvez ruiner une paire de jumelles en un rien de temps si vous ne le savez pas. Ou bien comment fait-on pour régler des jumelles et les adapter à sa vue instantanément sans avoir à les tripoter pendant une heure? Ça, vous ne le trouviez pas dans ce chapitre. Ce chapitre ne disait pas non plus que sur un petit bateau, la vibration et le ballottement font tellement vibrer les jumelles qu'il est impossible de lire le numéro des bouées et des balises ou le nom des bateaux si vous employez des jumelles trop puissantes. Et des jumelles 7x50 vont inévitablement vous donner une vue brouillée à cause du mouvement qu'il y a sur un petit yacht. Ce n'est absolument pas le type de jumelles à employer sur un yacht. Sur un petit bateau, vous devez employer des jumelles qui grossissent 3 ou 4 fois. Vous pourrez alors lire les numéros qui figurent sur les bouées. Donc même la conclusion du chapitre était fausse. Fascinant. Il avait écrit toutes ces pages, vous voyez. Mais quelqu'un arrive qui a été obligé d'avoir des jumelles toute sa vie. Il sait toutes les choses qu'un quartier-maître complètement abruti et inexpérimenté peut faire avec des jumelles, voyez. Il s'est servi de jumelles en toutes circonstances. Et il constate que ce que ce gars a écrit n'a absolument rien à voir avec le sujet. Mais attendez un peu. Attendez un peu. Un gars qui s'est servi de jumelles pendant des années, en main de circonstances, n'a pas besoin de ce manuel, pas vrai? Et si ce manuel ne dit pas au lecteur ce qu'il a besoin de savoir pour se servir de jumelles, alors pourquoi l'avoir écrit? En fait, c'est beaucoup plus vicieux qu'on ne le croirait à première vue. Beaucoup plus vicieux. Prenons au hasard quelques livres qui parlent de la mer. À moins d'être très intelligent et scientologue, vous ne remarquerez pas que ces livres ne parlent que de désastres. Invariablement, page après page après page, ils ne vous parlent que de désastres. Vous devez faire ceci et cela parce que telle chose va se produire, et vous devez aussi faire telle et telle autre chose parce que telle autre chose va se produire, et vous ne devez surtout pas faire telle chose parce que telle chose va se produire. Par contre, si vous voulez savoir comment ajuster la voile pour gagner un demi-nœud, vous pouvez toujours chercher. Mais on vous dit tout sur la façon d'attacher la voile au mât pour éviter que le cordage ne soit emporté par la tempête et ne s'en mêle, ce qui obligerait les gens à escalader le mât, ce qui, bien sûr, est absolument impossible. Et si vous lisiez beaucoup de livres de ce genre, vous n'iriez jamais en mer. Vous seriez mort de peur, cloué sur place par la peur. Et même une personne dotée d'une expérience considérable serait imperceptiblement gagnée par la peur, et elle finirait par être à moitié hystérique chaque fois qu'elle irait en mer. C'est une journée merveilleusement calme, le gars se trouve au milieu d'un canal de 50 milles de largeur, pas de bateau en vue, et il se demande si son compas de route marche bien ou si le magnétisme permanent de la coque a changé la dernière fois que le bateau était en cale sèche, ou bien si sa boussole marche bien. Il va s'inquiéter à propos de tout et ne se calera jamais dans son fauteuil en se disant « tout va bien ». Vous voyez ? Si vous voulez piquer des crises d'hystérie un jour, lisez « Pilote de côte ». Voilà un livre à recommander à ceux qui aiment les histoires d'horreur. Je me rappelle une fois, j'envisageais un aller direct, Alaska, Californie, sans protection, dans l'immensité du Pacifique, avec un bateau d'expédition, au beau milieu de l'hiver, sans suivre la côte. Simplement une traversée directe jusqu'au port, jusqu'à un port de Californie. Et j'étais assis là avec mon second, chacun de nous en train de consulter Pilote de côte. J'avais l'édition américaine et lui l'édition anglaise, et le texte était le même. Il semble qu'à 500 milles de la côte, il y a des courants absolument extraordinaires qui, avec le vent et le brouillard en décembre et en janvier, le vent et le brouillard arrivent toujours ensemble, qui, avec le brouillard et le vent en décembre et en janvier, vont à coup sûr vous mettre en pièces, vous couler, vous bousculer, vous immobiliser, vous démolir. Bref, vous n'en réchapperez pas. C'était si terrifiant, la description du livre était beaucoup plus terrifiante plus que je vous ai dit, c'était si terrifiant que lorsque nous nous sommes levés, et dehors c'était déjà l'obscurité, alors qu'il n'était que midi, et nous étions bien déterminés à faire cette traversée, à nous tirer de cet endroit, d'une façon ou d'une autre. Donc c'était tellement terrifiant, cette description du livre, que soudain, simultanément, nous avons piqué une crise de fou rire. Rien ne pouvait être pire que ce qu'ils avaient écrit dans le livre. Rien ne pouvait être pire que ce qu'ils disaient dans le pilote de côte américain et anglais. Rien. Une fois j'ai lu qu'il y avait un courant marin très violent, un rat affreux, un rat R-A-Z, un rat affreux, et qu'il avait coulé un navire de guerre canadien et fait 200 victimes, et que ce rat avait une vitesse de 16 nœuds chaque fois que la marée changeait, et qu'en plein milieu de ce courant, il y avait un rocher énorme qui mettait les bateaux en pièces, et qu'on pouvait le voir la nuit, car l'eau était projetée dans les airs quand les vagues venaient s'y écraser. Bon. Normalement, et de toute façon, vous prenez ce genre de courant quand la mer est étale. Et j'ai pris ce courant alors que la mer était étale. Et durant toute la traversée, le cuisinier a fait des crêpes et il me les amenait sur le pont, car j'ai traversé ce terrible courant en prenant mon petit déjeuner. Une fois j'ai traversé un autre rat dans un passage très étroit, où, ouvrez les guillemets, presque tout le monde avait été coulé, mais il arrivait parfois que des bateaux réussissent à passer en rebondissant contre les parois de la falaise, fermez les guillemets. Et je me suis retrouvé au milieu de ce courant, en pleine nuit, il y avait une erreur dans les tables de marée américaine. Il s'était trompé de 2 heures, ce qui fait que la mer n'était pas étale, mais en plein remous. Ce courant bouillonnait littéralement, et mon voilier s'est trouvé pris dedans avant que je n'eus le temps de dire ouf. Et à bâbord, la lumière de la cabine illuminait la falaise, et le bateau la longeait de si près que je pouvais voir la mousse qui recouvrait la paroi de la falaise. Et la barre a cassé. Plus de barre. Donc je me suis fabriqué une barre de fortune au milieu de tout ça, et puis soudain, je me suis rendu compte que nous étions parvenus à l'autre bout du courant. Nous étions passés. Et je me suis rendu compte d'autre chose. Ça ne m'avait servi à rien d'étudier ce courant avant, parce que marée montante ou non, rapide ou non, ce courant vous menait simplement à l'autre bout. J'avais étudié l'étape de marée pour rien. Bon, le courant était rapide. Et alors ? Ma foi, c'est très bien de connaître toutes ces mises en garde, mais comment se fait-il que le capitaine de l'Indianapolis, qui était capitaine dans la marine des États-Unis, il avait des galons, vous savez, on a un certain nombre de galons quand on est capitaine, et ce gars a amené le croiseur Indianapolis dans ce passage étroit, de mon avant-dernier exemple, et les pilotes du coin l'ont mis en garde. Et il avait lu toutes les tables de marée, c'était un diplômé de l'Académie navale, et je suis persuadé que c'était un homme qui avait beaucoup d'expérience. Il devait savoir tout ça, parce qu'à chaque fois que quelqu'un est promu, il doit passer un examen très complet sur tout. Je suis sûr qu'il avait toutes les informations nécessaires, qu'il avait été un étudiant brillant, et il a réussi à mettre le bateau en travers du passage, à marée montante, avec la proue sur une berge, et la poupe sur l'autre. Et je n'arrive pas à comprendre comment diable il a fait. Mais si vous étudiez attentivement ces manuels, vous constaterez que la plupart d'entre eux vous disent simplement de ne pas aller en mer, que c'est très dangereux. Et quelqu'un qui étudie ces livres à fond, et qui les considère comme paroles d'évangile, finira par ne plus avoir envie d'aller en mer, et par ne plus aller en mer. Donc, il y a des suppressifs dans ce domaine. Bon, c'est très joli de vous dire que si vous noyez le bateau dans du butane, si vous grattez une allumette, le bateau sautera. Nous sommes heureux de l'apprendre. C'est très joli de savoir qu'il y a des récifs à tel et tel endroit, mais ne restons pas fixés là-dessus le restant de notre vie. Indiquons aussi où se trouvent les eaux navigables, les eaux dégagées. Sauf qu'on ne vous les indique jamais. On vous dit seulement où se trouvent les récifs. Donc nous pourrions prendre un sujet d'étude et en faire quelque chose de suppressif. Vous devez dire aux gens qu'il existe certains dangers. Bon, c'est vrai, il arrive parfois que vous en parlez d'une façon trop superficielle. Par exemple, ça m'ennuierait beaucoup de dire aux gens, il y a deux extrêmes ici, ça m'ennuierait beaucoup de ne pas dire que si vous faites incorrectement une recherche et découverte, vous pouvez rendre votre PC très malade. Si vous trouvez le mauvais espie, la personne peut tomber malade. Elle peut tomber malade parce que vous avez restimulé le véritable espie. Et où ? C'est ça qui la rend malade. C'est pas la découverte du véritable espie qui la rend malade. Bon, je pourrais vous parler de tout cela, mais si maintenant j'insistais là-dessus avec de gros sabots, si ma description de la SED ne contenait que les choses à éviter pour ne pas tomber sur le mauvais espie, parce qu'évidemment vous allez tomber sur le mauvais espie, eh bien je pourrais vous mettre dans un état d'esprit tel que vous ne feriez probablement jamais de SED, parce que vous la considéreriez comme trop dangereuse. Je pourrais vous mettre dans un état d'esprit où vous auriez peur d'administrer l'action correcte parce que vous la trouveriez trop risquée. Eh bien voilà la façon de déformer un sujet et de le rendre suppressif. Voilà une façon suppressive d'enseigner le sujet. Nous pourrions pendant des pages et des pages dire que les gens tombent malades avec une SED si vous ne faites pas telle et telle chose. Et vous devez installer votre électromètre de telle et telle façon, sinon les gens tomberont malades, et votre électromètre doit être étalonné, et votre bouton trim doit être à telle et telle position, sinon les gens tomberont malades, gravement malades, et s'ils tombent malades, c'est votre faute à vous, l'auditeur. Vous voyez, nous ne dirions jamais que quelqu'un peut aller mieux grâce à une SED. La seule chose dont nous parlerions, c'est que si vous vous trompez, le PC tombera malade. La SED deviendra alors quelque chose de dangereux. C'est comme ça que les espies de la piste de temps s'y sont pris dans le domaine du mental. Ils ont tellement réussi à faire peur aux gens que toute recherche intelligente dans le domaine du mental et de l'âme a été abandonnée. Il est très fréquent d'entendre dire que c'est un domaine dangereux. Il ne faut pas jouer avec le mental. Il est parfaitement acceptable de démolir le cerveau à coups de hache, mais il ne faut pas jouer avec le mental. Qu'est-ce que les espies canalistes ont pu me pomper l'air en 1950 ? Ils n'arrêtaient pas de me dire que c'était dangereux de jouer avec le mental. J'ai fini par les envoyer balader en rigolant parce que j'ai vu à qui j'avais affaire. Lorsque les espies canalistes disaient jouer, eh bien c'est exactement ça qu'ils voulaient dire, parce que j'ai découvert qu'ils étaient incapables d'étudier la Dianétique. Ils en étaient incapables. Et savez-vous que la raison principale pour laquelle vous ne parvenez pas à entraîner des psychanalystes, des psychiatres et des médecins, ce n'est pas que nous nous montrions antipathiques envers eux, c'est qu'ils sont apparemment incapables de dupliquer des matériaux d'études. Nous avons des difficultés énormes avec eux. Vous pouvez enseigner un cours de com à Monsieur Tout-le-Monde en une semaine. Eh bien, avec un psychologue, il vous faut 6 à 8 semaines. Pas de la tarte. Parce que ce gars a reçu une éducation suppressive. Il n'arrive plus à dupliquer le sujet. Et ce que nous lui enseignons va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Et il comprend tout à l'envers et de travers, et il a des préjugés. En fait, ce qu'il lui faut, c'est le remède B du livre des remèdes pour les cas. Donc un sujet suppressif, c'est un sujet qui prend l'étudiant au piège. Et si l'étudiant n'a pas de manuel qui lui enseigne l'algèbre, il se peut fort bien que tous vos efforts pour lui enseigner l'algèbre soient vains. Il est absolument nécessaire que les gens qui rédigent les matériaux d'études soient capables de voir si ces matériaux ont une quelconque valeur. Maintenant, il y a des gens qui font vraiment tout leur possible, qui se donnent vraiment de la peine. L'autre soir, je lisais un livre de navigation intitulé « Quelques tuyaux pour la navigation côtière » et ce livre disait « Si vous avez un équipage inexpérimenté, vous devez vous servir d'une boussole quadrillée. Une boussole quadrillée. Au début du livre, l'auteur dit que c'est un ouvrage à la portée de tout le monde et que c'est dans cette optique qu'il l'a écrit. Dans les premières phrases, nous avons cette boussole quadrillée, sans aucune explication nulle part quant à ce que c'est. Donc, pour m'amuser, j'ai consulté plusieurs livres de navigation et d'équipement nautique pour savoir si je pouvais trouver une boussole quadrillée, une image ou une définition. J'ai aussi consulté deux ou trois dictionnaires nautiques pour savoir si je pouvais trouver la définition d'une boussole quadrillée. Introuvable. C'est dur, non? Très dur. Voilà un garçon qui avait honnêtement essayé de faire du bon boulot et qui s'est cassé le nez parce qu'il ne savait pas qu'il ne faut pas employer de mots que les gens ne connaissent pas. En Dianétique et en Scientologie, nous nous sommes constamment retrouvés confrontés à l'obligation de franchir les frontières de la langue. La langue anglaise n'avait pas de terminologie pour un sujet qui était inconnu. Comprenez? Je veux dire, vu que personne ne connaissait ce sujet et les éléments qu'il composait, il a bien fallu leur donner un nom, ce qui, malheureusement, nous a donné une nomenclature importante dont nous nous serions bien passés. Mais il nous a fallu avoir cette nomenclature vu qu'elle n'existait pas dans la langue. Maintenant, de temps à autre, un psychanalyste ou un psychologue essaye de décrire notre sujet en se servant de sa propre nomenclature. Et voilà la raison pour laquelle nous ne donnons pas à certaines choses leur ancienne dénomination. En effet, le psychanalyste va avoir une définition complètement différente pour telle et telle chose, et qui plus est, cette définition va être en contradiction avec celles avancées par d'autres psychanalystes, et on peut donc en conclure qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce domaine nage en pleine confusion. Chaque fois qu'ils donnent un nom à quelque chose, le mot ne veut pas dire ce qu'il est censé vouloir dire, voyez. Résultat, ils se disputent à propos de la définition de leur mot. Donc la solution à ce problème a été, quand c'était possible, de transformer des verbes en noms, d'employer une nomenclature qui, dans une certaine mesure, exprimait ce qu'elle représentait. Maintenant, comme je ne connaissais pas toutes ces données sur l'étude au début, lorsque j'ai écrit nos textes, il n'était donc pas possible d'appliquer ces données, et il n'est pas non plus possible de revenir au point de départ et de tout revoir ce qui a été écrit jusqu'ici. Ce serait une tâche très très longue et laborieuse. Ce serait une tâche laborieuse d'essayer de tout réécrire depuis le début. Maintenant, nous avons des difficultés, vu que nous n'avons même pas de dictionnaire. Nous n'avons pas de vrai dictionnaire pour le moment parce que chaque fois qu'on m'envoie un manuscrit de dictionnaire, je dois personnellement le vérifier de A jusqu'à Z et je me retrouve en train d'y apporter des changements et des corrections. C'est un travail énorme. Et puis quelqu'un d'autre se met à y travailler. Bref, il s'agit d'un projet majeur. Et juste au moment où je m'y mets, une bonne partie du dictionnaire est terminée et je dois y apporter des corrections, il se produit quelque chose dont je dois m'occuper à plein temps, et donc, pas de dictionnaire. Ce dictionnaire, ça fait je ne sais combien de temps que Reg et moi y travaillons, que nous essayons de vous fournir un dictionnaire. Eh bien, c'est un sacré travail. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sacré travail. Et vous constaterez que nos mots sont presque tous définis dans le texte où ils apparaissent pour la première fois. Donc, si vous étudiez tous nos textes, vous apprendrez toute notre langue. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit qu'un étudiant de Saint-Hilde ferait mieux de revenir à la méthode d'étude originelle, laquelle consiste à tout étudier sans entrer dans les détails. Vous étudiez tout sans entrer dans les détails. Vous finirez alors par bien comprendre la totalité du sujet. Et les choses que vous devez vraiment bien savoir, eh bien vous les étudiez à fond, en vue d'un starred check-out. Mais pour comprendre le sujet en général, il vous faut avoir tout lu. Maintenant, bien sûr, il y a un obstacle auquel vous pouvez vous heurter. Il arrive que vous ne sachiez pas où un mot a été employé pour la première fois. Il nous manque probablement un grand nombre de conférences sur bande. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de conférences de Wichita, Je sais que nous avons peu ou pas de conférences d'Élisabeth, comparé au nombre de conférences données à Élisabeth. À l'époque, il y avait parfois 8 heures de conférences par jour pendant plusieurs jours d'affilée. Et il était très courant que nous ayons 5 heures de conférences par jour lorsque nous enseignions notre sujet à des classes et à des groupes. Donc, nous avons un problème ici. Mais nous sommes assez intelligents pour savoir que nous avons ce problème. Et ce que je vais vous dire maintenant va, dans une très grande mesure, vous permettre de résoudre ce problème. Je vais vous parler de l'intention en étude. Dans quel but étudiez-vous? Tant que vous n'aurez pas clarifié cela, vous ne serez pas capable d'appliquer le sujet intelligemment. La plupart des étudiants étudient en vue de l'examen. C'est de la folie pure et simple. Ce n'est pas de l'examinateur que vous allez vous servir pour appliquer le sujet. Vous avez ce gars qui étudie en vue de l'examen, qui étudie en vue de l'examen, qui étudie en vue de l'examen. Comment vais-je pouvoir recracher cela quand on me posera telle question? Comment vais-je répondre? Comment vais-je réussir mon check-out? C'est très difficile de demander à quelqu'un de démontrer, donner des exemples, clarifier pendant un examen. Il est tellement plus facile de demander « qu'est-ce que dit le bulletin ?» et d'obtenir des citations mot pour mot du texte. Et en fait, on ne peut absolument pas appeler ça un examen. Et c'est ça le défaut de l'éducation dans les universités. C'est pour ça que « l'homme de la pratique », entre guillemets, entre dans des discussions avec l'homme qui a reçu une éducation purement académique lorsqu'il doit familiariser ce dernier avec le sujet. Vous savez, comme le gars qui construit des maisons depuis un bon bout de temps, et soudain il se retrouve avec un assistant qui vient d'apprendre à construire des maisons à l'université. Le gars s'arrache les cheveux. Cet assistant a étudié le sujet pendant des années, mais il n'y connaît rien. Et il ne sait pas pourquoi. Eh bien, je peux vous dire pourquoi. Parce que ce gars qui sort tout frais de l'université a étudié tous ses matériaux en vue de l'examen. Il ne les a pas étudiés en vue de construire des maisons. Et le bonhomme qui a pratiqué le sujet ne va pas forcément avoir une connaissance supérieure, au bout du compte, mais il est certainement capable de construire des maisons. Parce qu'à chaque fois qu'il étudie quelque chose, il se demande « comment puis-je appliquer cela à la construction des maisons ?» Chaque fois qu'il lit une publicité ou un texte sur le sujet, il se demande « comment puis-je appliquer ceci à ce que je fais ?» Et voilà la différence fondamentale et appréciable entre l'étude pratique et l'étude académique. L'éducation scolastique ou académique ne vaut pas grand-chose. Pourquoi, après avoir étudié un cours, est-il incapable d'auditer? Parce qu'il a, en fait, étudié en vue de l'examen. Il n'a pas étudié le sujet en vue de l'appliquer aux gens. Et il se retrouve donc incapable d'appliquer les matériaux. C'est regrettable. Voilà la seule et unique raison pour laquelle les gens échouent dans la pratique après avoir reçu le certificat du cours. Maintenant, si un gars étudiait uniquement en vue de l'examen, il ne se sentirait pas obligé de connaître la signification exacte de tous les mots. Il pourrait glisser dessus parce que le mot ferait partie de la phrase qu'il se contenterait de citer mot pour mot si jamais on lui posait telle question. Donc, il n'est pas vraiment obligé de connaître le sens du mot. Donc, pendant qu'il étudie, il a tendance à mettre mentalement les matériaux de côté et à s'en séparer, parce qu'il est capable de les débiter comme un perroquet. Et voilà pourquoi vous avez des étudiants qui sont capables de débiter les matériaux à la perfection, mais qui ne connaissent absolument pas le sujet. Vous lui dites « point d'appui ». Il ne sait pas ce qu'est un point d'appui. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Par contre, il sait que le mot fait partie d'une phrase qui dit « la loi du point d'appui, c'est… » Et il est donc capable d'écrire toute la formule, et il sait résoudre les problèmes de point d'appui, parce qu'il y a des formules pour les résoudre, et il applique donc ses formules pour résoudre les problèmes qu'on lui donne. Et voilà. Et puis un beau jour, il doit déplacer un tonneau. et il reste là à regarder le tonneau en se grattant la tête. Il ne voit pas comment il va déplacer ce tonneau, impossible de le soulever pour mettre quelque chose dessous. Et même s'il arrivait à le soulever, impossible de le tenir parce qu'il est trop lourd. Finalement, quelqu'un qui n'a jamais rien appris sur les points d'appui arrive et prend une barre qu'il met sur une souche, ce qui lui donne un point d'appui, et ça lui permet de déplacer le tonneau avec le levier ainsi formé. Le gars, en voyant cela, risque de ne pas faire le rapprochement entre ses leçons de physique et ce qu'a fait cet ouvrier. Et c'est comme ça que nous avons des imbéciles très cultivés. C'est comme ça qu'on les fabrique. Et cela vient de l'intention de l'étudiant. Soit il étudie en vue de l'examen, soit il étudie en vue d'appliquer. Deux choses complètement différentes. Maintenant, quand un sujet est truffé de pièges et suppressif à l'extrême, on peut l'étudier en vue d'un examen. Mais il est impossible de l'étudier en vue de l'appliquer. Un sujet peut être complexe à souhait, il peut être rédigé d'une façon complètement suppressive, il peut être très mal organisé. Vous pourrez malgré tout le mémoriser. Vous pourrez le recracher sur votre feuille d'examen, à condition de travailler dur et d'avoir une bonne mémoire. Mais vous ne pourrez pas l'appliquer, parce qu'il ne contient aucune donnée censée qui permette de l'appliquer. Horrible, non ? Il n'y a rien à comprendre dans le sujet. Donc s'il n'y a rien à comprendre, impossible de l'appliquer. J'imagine que vous pourriez rédiger tout un manuel d'études sur les espinarfes sans que personne ne sache jamais de quoi il s'agit. Et vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous pourriez écrire un livre très savant, rempli d'équations mathématiques, qui permettent de résoudre les espinarfes. Et avoir des étudiants qui obtiennent 20 sur 20 pour ce sujet. Un sujet fabriqué de toutes pièces. Maintenant, prenons l'autre aspect de la chose. Si vous étudiez le sujet en vue de l'appliquer, chaque fois que vous vous heurtez à quelque chose d'incompréhensible dans le texte, vous allez de vous-même chercher à le clarifier. Si vous vous heurtez à quelque chose et que rien dans le texte ou dans un texte sur le même sujet ne permet de le comprendre, vous allez devoir le clarifier pour pouvoir l'appliquer. Et de cette façon, vous ne serez pas arrêté par tout un tas de choses mal comprises, vu que vous vous arrêterez pour les clarifier chaque fois que vous tomberez dessus. Maintenant, votre problème quand vous étudiez la Dianétique et la Scientologie, c'est surtout que vous n'avez pas de dictionnaire. Mais j'attire votre attention sur le fait que je viens de sortir deux bandes et un bulletin, où, si vous les étudiez très attentivement, vous constaterez que tout est défini. Vous avez remarqué ? Il s'agit des matériaux de Dianétique que nous sommes en train d'appliquer dans le cours de Dianétique. Tout y est défini en vue d'une application totale, ce qui rend donc l'application possible. Vous pouvez étudier les matériaux en vue de les appliquer. Et remarquons que les étudiants qui auditent la Dianétique obtiennent des résultats plutôt intéressants. Et en plus, nous leur disons d'étudier ces matériaux en vue d'une application immédiate. Voyez ? Voilà qui les met dans un état d'esprit où ils étudient pour appliquer. Maintenant, si quelqu'un a des difficultés avec la Dianétique, c'est tout bonnement parce qu'il a étudié les bandes ou les bulletins de Dianétique en vue de l'examen. Si vous reveniez en arrière, maintenant, avec un point de vue flambant neuf, comme si vous n'aviez jamais entendu parler du sujet, et que vous l'étudiez pour l'appliquer, et qu'à chaque phrase vous vous demandiez comment vous allez appliquer cela au PC, ou ce que ça a à voir avec vous en tant qu'auditeur quand vous l'appliquez la Dianétique au PC, eh bien, vous ne finirez pas avec une indigestion de données. Vous comprendriez le sujet à la perfection. Vous obtiendriez des résultats. Boum, boum, boum. Vous voyez ? Mais on vous fait prendre de très mauvaises habitudes dans les universités et dans les écoles de notre société contemporaine. À cause de la très grande importance qu'on accorde aux examens. Les examens sont d'une importance si extraordinaire qu'on peut devenir un paria si jamais on est recalé. J'ai remarqué aux États-Unis, on appelle un étudiant qui est recalé un drop-out, c'est-à-dire un déchet ou un marginal. C'est un déchet. Le gars est recalé, c'en est fini de lui. Mais il est intéressant de constater que les quatre étudiants qui avaient été recalés, je crois qu'il s'agissait de l'université de Princeton, c'est des étudiants de première ou de deuxième année. Ce dit en passant, je ne fais que paraphraser, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, dans l'année qui a suivi leur échec à l'examen, tous les quatre gagnaient plus de 25 000 dollars par an. Ce qui prouve bien que ce n'étaient pas des ratés, mais que c'était eux les cerveaux de la classe. Maintenant, nous pouvons toujours chercher, si nous voulons trouver un seul philosophe qui a été reçu à l'examen ou qui a fini ses études, à l'exception de Mills. En gros, vous pouvez lire la liste. Bacon, Spencer, et celui-ci, et celui-là. Tiens, voilà un qui est resté 17 jours à Oxford, et à qui on a donné 0 sur 20. Et la liste continue. Comment cela se fait-il? Eh bien, l'homme, depuis longtemps, refuse de confronter le problème. Il sait qu'il existe, mais il a absolument refusé de le confronter. Parce que si vous n'arrivez pas à enseigner quelque chose aux étudiants intelligents, c'est donc la preuve que le système d'enseignement ne vaut rien. Et l'homme a cherché à justifier cet échec par tout un tas d'explications. Mais l'explication est simple. C'est tout simplement que les matériaux d'études qu'on donne aux étudiants ne sont pas applicables. Et ces étudiants intelligents, ce sont des gens qui font des choses dans la vie et qui veulent des textes applicables. Alors que les textes universitaires sont conçus de telle façon qu'il est impossible d'appliquer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Bon, n'allez pas croire que je nourris de vieilles rancunes, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai été recalé à l'examen de géométrie analytique. Recalé en beauté. J'ai eu 2 sur 20 ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas bien familiarisé avec les mathématiques, vous n'avez probablement jamais entendu parler de la géométrie analytique. En effet, il s'agit d'une branche des mathématiques qui est tombée en désuétude. Selon les professeurs, elle n'est d'aucune utilité. Mais j'étais là au fond de la classe et le sujet m'a intrigué parce qu'on pouvait l'appliquer à la navigation aérienne. Et j'ai remarqué qu'on pouvait en tirer une formule qui résolvait le problème du vent. Vous savez, le problème de la vitesse et de la direction du vent. Et il y avait d'autres choses qu'on pouvait appliquer très facilement. Et j'ai constaté que c'était là des mathématiquement drôlement utiles. Quelle erreur je n'avais pas commise là. Ça a été la fin des haricots. J'avais fait une gaffe. J'ai dit au professeur, il s'appelait Hodgson, et ses yeux ont lancé de très belles flammes quand il a vu que ces mathématiques mortes pouvaient être appliquées et servir à quelque chose. Je lui ai raconté tout ça avec une certaine indifférence, je n'ai pas essayé de le convaincre. Je ne cherchais pas la discussion, je me suis montré très poli, et il m'a recalé sans autre formalité, pour tout le cours. Bien par bonheur, j'ai pu aller voir un dénommé Taylor, qui détenait la chaire de mathématiques à l'université. C'était l'un des 12 hommes aux États-Unis à l'époque, qui parvenait à comprendre Einstein, et j'ai demandé à passer un nouvel examen. Il a donc ordonné à Hodgson de me faire passer un nouvel examen. Et Hodgson a demandé chaque formule du manuel. Il fallait connaître chaque formule du manuel, mot pour mot, chaque théorème, mot pour mot, etc. Et il s'est dit, je vais lui faire son affaire, je vais lui apprendre à vouloir transformer des mathématiques mortes en mathématiques vivantes. J'ai eu 19,5 sur 20 à l'examen. Le principe, nous avons ici des connaissances qui sont bien mortes, et c'est très bien comme ça, eh bien, j'étais parti directement à l'assaut de ce principe, de cette citadelle. J'ai commis l'erreur de dire à ce professeur que ce sujet pouvait servir à quelque chose, une erreur fatale de ma part. Je n'aurais jamais dû l'ouvrir. Une autre fois, j'étais recalé à un examen sur la libre pensée parce que j'avais décidé que la libre pensée était possible. Donc, le domaine de l'étude repose sur deux choses. Les matériaux à étudier et l'attitude avec laquelle on les étudie. L'objectif est l'intention de l'étudiant. Maintenant, si vous étudiez vos textes de Yanétique et vos textes de Scientologie, simplement en vous demandant « Comment puis-je appliquer ceci ? Comment puis-je me servir de cela ?» Et si à un examen, vous demandiez principalement à l'étudiant « Très bien, nous avons ici le bulletin 642. » Soit dit en passant, j'attends des étudiants qu'ils connaissent les commandements d'auditing par cœur. « Comment appliques-tu ce bulletin ?» Le HCOB du temps étant, voyez, l'examinateur ne demande pas « Qu'est-ce qui est écrit dans ce bulletin ?» Il demande « Comment appliques-tu ce bulletin ?» L'étudiant vient de le lire. Je parie que plus d'un étudiant va avoir un regard terrifié. Il a lu le texte en vue de l'examen, non pas pour l'appliquer. Mais s'il l'a lu en vue de l'examen, ce texte, en fait, ne lui servira à rien. Mais s'il l'a lu en vue de l'appliquer, alors il trouvera les informations utiles. Vous comprenez ? Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez affaire à un sujet dont le vocabulaire n'est pas traditionnel, ce qui est un handicap. Son vocabulaire est nouveau. Et il y a le fait singulier et horrible que nous ne possédons pas de dictionnaire. Mais si vous étudiez une grande quantité de textes, vous constaterez que la plupart des mots nouveaux sont définis dans le texte, ce qui vous permet de les comprendre. De plus, vos instructeurs les connaîtront en général, et vous pouvez leur demander de les éclaircir pour vous. Et vous devez éclaircir ces mots. Eh bien, ces nouvelles données sur l'étude complètent évidemment les autres matériaux concernant l'étude que nous possédions déjà. Il y a un sujet qui m'amuse beaucoup et qui est probablement le plus gros casse-tête chinois qui existe, et le sujet qui va vous créer le plus de problèmes. C'est le sujet de l'économie. On s'est servi du sujet de l'économie pour prôner des idéologies politiques, ce qui fait que pour chaque idéologie, on a rédigé une économie qui s'y adapte. Au point que les gens ont cessé de croire qu'il existe un sujet appelé économie. Le plus bizarre, c'est qu'il existe un sujet appelé économie, et qu'il a certaines bases, certains fondements, et si l'on transgresse ces fondements, on détruit tout le sujet. Mais on a soigneusement mis tous ces fondements au rencard, et à la place on a érigé une toute nouvelle façade pour prôner le communisme, le fascisme, et tout un tas d'autres ismes. Et c'est comme ça que vous avez les socialistes qui appliquent une économie capitaliste, et les capitalistes qui appliquent une économie socialiste. Je ne sais pas comment ils font, il n'en reste pas moins que c'est ce qu'ils font. Vous savez, le parti travailliste en ce moment ne se sert de rien d'autre que d'une économie capitaliste. Je ne vois pas comment ils espèrent réussir avec une telle politique. Les conservateurs, d'un autre côté, qui ne jurent que par le capitalisme, avancent des solutions économiques qui ne sont rien d'autre que socialistes pour résoudre les problèmes. Je n'ai jamais vu une telle pagaille. On a pris ce sujet et on l'a déformé pour l'adapter à une certaine idéologie. On a rédigé le sujet de façon à ce qu'il suive une certaine tendance. Voici l'économie communiste et selon blablabla, les formules de cette économie s'adaptent à chaque homme. Voyez le genre. Dès que vous cherchez à appliquer cette version du sujet, vous transgressez les principes de base du sujet. Il existe un sujet appelé économie. C'est vraiment un sujet très simple, et on en a fait quelque chose d'obscur. Donc il y a autre chose que vous pouvez faire avec un sujet, vous pouvez tellement le déformer qu'il devient inapplicable, ou impossible à assimiler, ou encore synonyme de catastrophe si jamais vous l'appliquez. C'est ce qu'on a fait avec l'œuvre de Freud. Je suis sûr qu'une bonne part de la technologie de Freud était applicable. Je peux vous assurer que cette technologie n'a pas survécu en psychanalyse. Parce que l'analyse freudienne qu'on m'a enseignée en 1924, vous ne la trouvez plus dans aucun manuel. Je sais bien que 1924 semble une époque très éloignée, mais le fait est que, lorsque j'ai étudié le sujet pour la première fois, ça avait l'air très intéressant. Et tout ce que j'ai étudié à l'époque, eh bien, ça a disparu. Ça fait des années que je n'en ai plus entendu parler. J'ai entendu d'autres choses. J'ai entendu dire que le système économique auto-érotique se retourne très souvent contre la société à cause de la perversion du ça. Vous devriez prendre un livre de Horney sur la spic-analyse et le lire aux gens au cours d'une soirée. Prenez simplement un paragraphe au hasard, hors contexte, personne parmi les convives ne voudra croire que c'est écrit dans ce livre. Ils seront persuadés que vous êtes en train de leur lire du chinois. Ils seront certains que vous êtes en train de leur lire du chinois parce qu'il est impossible que quelqu'un puisse écrire des choses pareilles. Mais voilà comment vous pourriez prendre un sujet. En ce moment, l'humanité est emprisonnée dans une toile d'araignée économique, dans un filet économique. 24 heures sur 24, l'homme est contrôlé par l'économie. On a tant compliqué, déformé, mal défini et dévié le sujet de l'économie, on l'a rendu si suppressif, que ceux qui s'en servent ne savent pas ce qu'ils font. Jamais vu ça. Maintenant, vous étudiez un sujet dans lequel il n'y a pas de piège. Son seul défaut, c'est probablement qu'il ne vous met pas suffisamment en garde concernant certaines choses. Mais il n'y a aucun piège intentionnel dans ce sujet. En fait, quand vous l'étudiez en suivant la méthode dont on s'est servi pendant la recherche. Donc si vous étudiez le sujet en vue de l'appliquer, vous en découvrirez rapidement les éléments qui sont inapplicables et les choses qui vous paraissent incompréhensibles ou qui sont tout bonnement incompréhensibles. Et petit à petit, vous parviendrez à tout démêler, dictionnaire ou non. Voyez ? Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous aurez envie de rigoler un bon coup, prenez un texte du genre « Le jardinage paysager pour débutants » et voyez si l'auteur du livre est un cas d'éthique ou non. C'est extrêmement curieux. Vous verrez que parmi les auteurs des textes avec lesquels l'humanité espère faire progresser sa culture et sa civilisation, il y a pas mal de espies. Vous trouverez aussi de braves types qui écrivent de bonnes choses, mais vous verrez aussi que certains de ces gars qui écrivent de très bonnes choses sont les gens les plus maudits du monde. Par exemple, Will Durant avait rédigé l'histoire de la philosophie et tenté de clarifier la philosophie, et il a passé les dernières années de sa vie, je ne sais pas s'il est encore vivant, comme un reclus en Californie, couvert de honte et frappé d'horreur parce qu'on lui avait reproché, en faisant un boucan de tous les diables, d'avoir écrit ce livre dans lequel il essayait de rendre la philosophie simple et compréhensible. Curieux, non, qu'on ait harcelé ce bonhomme jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une envie, mourir. Il y a eu un dénommé Thompson. La plupart des étudiants à l'université tomberont un jour ou l'autre sur l'un des manuels de Thompson. Il s'agissait soit de Thompson, soit de Carpenter. Et il avait écrit un petit manuel, et au début, il dit ce qu'est le calcul infinitésimal. Il explique le calcul infinitésimal. Et vous lisez le livre, et il est si simple que vous finissez par rire. Vous dites que vous arriverez à quelque chose avec le calcul infinitésimal maintenant. Mais ce n'est pas ce livre de calcul infinitésimal que vous avez dans les universités. J'ai eu des professeurs qui ont sévèrement mis en garde leurs étudiants contre les manuels simples qui communiquaient les mathématiques et leur langage très compliqué aux étudiants. Donc vous trouverez même des professeurs qui mettent les gens en garde contre les manuels simples et vous verrez qu'une grande partie de la société voit les simplifications d'un mauvais œil. Eh bien, il y avait quelques remarques supplémentaires à faire sur l'étude. Peut-être que cette conférence vous aura aidé un peu. Peut-être qu'elle aura clarifié ce que vous faites. Et la prochaine fois que vous étudiez, regardez bien. Vous vous surprenez en train de vous dire « l'examinateur va demander telle ou telle chose ». Eh bien, à ce moment-là, prenez sur vous-même et à la place, demandez-vous « est-ce applicable ? Est-ce que cela me permet de mieux comprendre le mental ? Est-ce que cela me permet de mieux maîtriser le sujet ? Et si oui, dans quelle mesure ? Comment puis-je appliquer cela ? De quelle utilité ces données pourraient-elles m'être dans la vie ? Et vous constaterez soudain que vous êtes en train de vous remettre de toutes les indigestions que vous avez attrapées en étudiant trop, trop vite. Merci beaucoup.